Bienvenue les amis, donc nous sommes avec trois intervenants de qualité et donc le thème de ce soir, quand avez-vous pour la dernière fois osé réaliser vos rêves? Donc nous sommes d'abord avec Coco Tache qui est fondatrice du média Seven Sky Live. Bonsoir Coco.
Coucou.
Alors Coco, tu nous amènes deux intervenants de qualité, donc Julien et Isabelle. Je vais commencer. Bonsoir à tous les deux.
Coucou.
Je vais commencer par te proposer de te présenter, Coco, en quelques lignes, parce que tu es déjà venue, et surtout nous parler de Seven Sky Live, à quoi ça sert, et finalement, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un média qui nous permet d'être tous ensemble, et aussi de contribuer au grand changement. Mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Il y a des événements, on peut publier des articles, comment on s'inscrit sur le site, comment ça se passe tout ça?
Alors, le but, c'est absolument ça, qu'on partage des articles, des réalisations, des compréhensions qu'on a eues et qu'on... Ça fait bizarre, je me vois là, je suis désolée, on est obligé que je me vois comme ça.
Ah,
voilà. Voilà, merci. Alors, en fait, donc si quelqu'un a une compréhension sur quelque chose, par exemple, et puis en fait, il le partage, ça veut dire que quelqu'un d'autre, en fait, n'a pas besoin de faire tout le chemin, des fois quelques années, pour comprendre la même chose. Donc en fait, c'est des cadeaux qu'on offre, de nos révélations, ce qu'on a compris dans la vie. Donc à chaque fois qu'on en lit des articles, en fait, on peut avoir des moments « aha, waouh, incroyable ».
Donc quand on va sur le site, on trouve des articles qui peuvent nous faire évoluer et progresser.
Énorme. Énorme, énorme, énorme. Voilà. Maintenant, j'ai un grand, grand souhait pour tous ceux qui écoutent, là, qui sont là. Partagez, partagez. Parce que c'est vrai que j'ai encore pas bien fait le travail de motiver que tout le monde partage. Mais le but, c'est vraiment que tout le monde partage, en fait. Et que c'est vraiment un média collaboratif. Voilà.
D'accord. Et donc, tu organises des événements physiques. D'ailleurs, Isabelle et Julien y seront, entre autres. Donc, le thème, c'est de réaliser ses rêves, hein, c'est de donner des outils concrets et des personnes inspirantes qui vont en parler. Donc, ce soir, on va avoir aussi vos actions de succès. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là et comment vous avez réussi à faire ça pour tous nous inspirer? Coco, je te propose de présenter tes deux invités.
Avec grand plaisir.
Perles rares.
Alors, on commence par Isabelle. Isabelle, en fait, c'est toujours des coups de foudre qui viennent à la Seven Sky Live Connection. C'est vraiment des gens où je mets mes mains et voilà, mon corps entier presque dans le feu parce que je les aime tellement par rapport à ce qu'ils amènent à l'humanité et par rapport à leur authenticité d'être, en fait, leur intégrité, leur authenticité. Et Isabelle, elle a créé un projet magnifique, Joy for the Planet. Elle était d'abord journaliste, elle va vous raconter après. Elle était d'abord journaliste pendant longtemps. Elle a vu comment marchent les médias mondiaux comme ça. Ensuite, elle a travaillé pendant 10 ans pour la Croix-Rouge. Et en fait, son but était toujours apporter la joie dans le monde. Donc, elle a dit, mais pourquoi pas, je prends un bus qui s'appelle Bigoudi, je le peins et je parcours l'Europe, en fait, au bord de ce bus. Et je vais interviewer des gens comme toi et moi, juste dans la rue, en fait, qui procurent de la joie dans le quotidien de tout le monde. Mais c'est pas des gens connus souvent, mais c'est des gens voilà, qui apportent la joie. Et en fait, elle est une incroyable conteuse, elle est une incroyable filmeuse et elle apporte en fait à chaque fois des étincelles d'amour et de... Donc, t'es tellement touchée par chacun de ses interventions et surtout aussi, elle crée à chaque fois les liens et elle aide les gens en fait, quelque part à briller plus. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est Isabelle.
Donc, ça, c'est pour Isabelle qu'on va entendre tout à l'heure. Et Julien, si tu peux nous présenter Julien.
Alors, Julien, c'est un grand coup de foudre parce que quand j'étais avec Seven Sky, avec les magazines Snowboard, Skate, Surf, Écologie et Conscience pendant très, très longtemps, j'ai découvert, en fait, Picture Organic Clothing. Je m'étais rendu compte qu'en fait, dans le snowboard et dans le ski, il n'y avait aucune marque vraiment écologique comme ça. Il y avait Patagonia, mais rien d'autre. Et du coup, à Verbier, en fait, je les vois. Là, ils avaient loué une terrasse et puis là, il y avait des modèles et tout ça. Et puis, trois gars, mais un plus beau que l'autre. C'était quoi, Julien? C'était il y a 12 ans, c'est ça?
Il y a 11 ans, ouais.
11 ans, ouais. Et puis voilà, ils sont incroyablement souriants et tout. Et en fait, ils voulaient créer une marque un peu comme Patagonia pour des jeunes. Donc, c'est les premières qui ont mélangé snowboard et ski. Avant, il y avait absolument, c'était soit c'est snowboard ou soit c'est ski. Et en fait, eux, ils ont mélangé déjà le snowboard et le ski. Et en fait, ils voulaient juste tout faire juste depuis le début. Et c'est pour moi, c'est la solidarité, c'est la fraternité. Ils sont toujours ensemble. Tout ce qu'ils font, c'est beau. Toutes les actions, les projets, les films, c'est exceptionnel. Et pour moi, c'est une avec Opaline, que j'adore aussi, la marque Opaline. Vraiment des projets, des marques, des sociétés, en fait, qui marchent actuellement le plus parce qu'on les observe dans les...
Parce qu'ils sont humaines aussi.
C'est fou, c'est fou. Et puis, quand ils sont dans les expos, toutes les autres marques, en fait, ou beaucoup d'autres marques qui ne sont pas dans la même démarche de vraiment apporter de l'éthique, du feeling, de l'amour, des produits naturels, etc. Ben, beaucoup d'autres marques, en fait, ils baissent plutôt et leur stand devient de plus en plus grand et en fait, qui prouve vraiment que vous avez beaucoup, beaucoup de succès. Ça marche, votre...
Et alors, du coup, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur Julien. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as réussi? Peut-être comment vous avez réussi, parce que vous êtes tous les trois.
Alors, du coup, pour rebondir sur le thème qui est oser rêver, c'est finalement oser aller au bout de ses ambitions. Et ça commence toujours avec des passions. Notre passion de base depuis notre enfance avec Jérémy et Vincent, les deux personnes avec qui on a créé Pitcher, sont deux personnes avec qui on a fait du skate toute notre adolescence sur les skateparks et les bancs de Clermont-Ferrand. Et on a découvert le snowboard plutôt tard, puisqu'on avait 16-17 ans dans nos petites collines de Superbès avant d'avoir le permis de conduire et de pouvoir aller finalement dans les Alpes. Donc on a vraiment grandi loin des montagnes, mais on a toujours été passionnés par les montagnes. Et donc moi, j'ai eu travaillé dans mon parcours professionnel dans l'agroalimentaire pour des entreprises comme Coca-Cola, Orangina. Et en fait, il n'y avait pas de réel sens à part gagner de l'argent et arriver à me nourrir. Et dans une espèce de recherche de quête de sens, un soir, j'ai appelé Jérémy et Vincent et je leur ai dit « Mais ça ne vous dirait pas qu'on essaye de faire quelque chose et qu'on vive de notre passion ?» Quelque chose un peu à la croisée de la Kunes qu'un Burton nous a apporté, a été inspirant pour nous en tant que marque, et d'un Patagonia qui aujourd'hui est finalement la marque de mon père, mais pour lesquelles on adhère aux valeurs. Et ça, ça aurait vraiment du sens que toute notre communauté, toute notre génération aujourd'hui, elle trouve une marque qui résonne, qui soit inspirante et qui les amène à consommer différemment. Et donc, on a vraiment commencé ce projet sur un projet d'amitié avec pour le coup, pas forcément d'ambition financière, mais des ambitions d'inspiration. Et d'ailleurs, quand on a écrit, et c'est marrant de la relire maintenant, puisque là, on a grandi, on est 60 dans l'entreprise, quand on relit les fondements de la marque, on écrit le premier jour de la marque, Pitcher se veut d'être une marque éco-responsable, inspirante dans un lifestyle action sport, et on veut développer les produits de demain qui contribueront à la lutte contre le changement climatique. Alors, on n'a jamais eu l'ambition de dire que nous, on allait lutter contre le changement climatique activement en fabriquant des produits, parce que c'est une aberration. Mais par contre, on s'est dit, de toute façon, aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle il y a quand même une logique de consommation, les choses vont vite, et comment aujourd'hui on pourrait arriver à inspirer les gens à consommer différemment. Jérémy, mon associé, depuis toujours, il a grandi dans une famille dont les parents sont architectes, donc c'est une famille d'architectes, le frère est architecte. Ils se sont spécialisés très tôt dans les maisons éco-responsables, donc les maisons complètement auto-alimentées en énergie et autres. Et donc il a baigné depuis son enfance dans ces concepts. Quand les concepts de chauffage géothermie, de solaire et autres étaient juste aux prémices d'exister, son père a été un des pionniers à dire « ça, c'est l'avenir, il faut arriver à faire des maisons qui ne consomment pas d'énergie, toutes les problématiques du nucléaire, des centrales à charbon, etc., de la combustion des énergies fossiles, je ne parle pas nucléaire, mais je parle de tout le reste, pour faire de l'énergie, ça, c'est un réel impact sur l'environnement et ça affectera les générations futures. » Et du coup, son père était assez visionnaire, il nous a vachement inspiré également, Jérémy nous a inspiré par son père en nous sensibilisant à toutes ces choses. Et donc, depuis toujours, on a baigné dans cet environnement de « et demain, comment ça se passera ?» Et donc Pitcher, c'est vraiment né de ça. Et au quotidien,
comment vous en êtes arrivé là? Parce que là, vous aviez un but. Donc déjà, c'est important d'avoir un but si on veut réussir quelque chose. Et comment on réalise ses rêves? Il y a une clé pour ça? Est-ce que c'est l'amitié pour vous? Est-ce que c'est quoi?
Il y a deux choses. Il y a la passion et l'amitié. En fait, en croyant en notre projet, en étant passionné de ce qu'on fait, en l'incarnant et en le vivant, on a amené avec nous plein de gens. On s'est fait aider dans notre parcours par des personnes comme Georges Pesset, qui est le fondateur de Jonathan Future, qui est une société qui a bossé pendant 30 ans pour des marques comme Salomon, Burton, North Face, dans la conception et l'ingénierie de vêtements textiles, de vêtements techniques. Et donc, du coup, il nous a rencontrés, il a senti une énergie en nous et il a dit « Les jeunes, j'ai envie de les aider ». Et du coup, il m'a pris sous son aile pendant 2 ans, il m'a amené dans les usines, il m'a appris comment on faisait des textiles écologiques, comment on laminait des membranes, qu'est-ce que c'était qu'une membrane, comment on construisait un vêtement. Et on partait de rien. Moi, j'avais des tableaux marketing chez Coca-Cola et Orangina quand je suis parti. Et donc, du coup, je prends cet exemple de ce monsieur, mais il y a une personne comme Jérôme Elbaz, qui est le directeur France de The North Face, qui est un des administrateurs de l'Outdoor Sports Valley, donc une association d'entreprises de l'outdoor située à Annecy. Et on a été retenu comme une start-up à suivre. Et donc, on s'est fait parrainer. Et il a été notre parrain dans le projet. Et du coup, dans ce parrainage, il nous a amené plein de solutions techniques sur comment on peut exporter des produits, sur comment on passe des barrières douanières. Toutes ces choses-là.
Donc, vous êtes attiré des bonnes personnes aussi.
Exactement.
Le fait que vous ayez une bonne énergie et qu'on sentait que vous avez envie d'aller de l'avant, donc on avait envie de miser sur vous quelque part. Et donc, vous attirez les bonnes personnes. C'est important aussi pour réaliser ses rêves.
Exactement. On attire les bonnes personnes et en plus, on éloigne les personnes qui sont assez néfastes et qui n'ont qu'une ambition, c'est prendre des parts dans l'entreprise qui va être nous utiliser à des fins de. En fait, c'est ces gens-là, par défaut, parce qu'ils ne vivent pas la passion et que du coup, ces gens qui sont opportunistes, ils ne nous intéressent pas. Et je ne sais pas comment le dire, c'est quelque chose d'assez. C'est comme des aimants. Soit c'est deux aimants négatifs et puis à ce moment-là, ça s'oppose et jamais ça va matcher. Soit il y a un plus, un moins et puis ça vient se connecter. Et cette analogie, j'aime bien la reprendre pour expliquer la manière dont ces gens-là nous ont aidés. C'est que c'est des gens qui avaient juste envie de contribuer à nous aider à notre projet, qui avaient envie de transmettre également et qui avaient envie de donner du sens aussi à leur savoir et en se disant c'est un projet super inspirant pour nous et si on peut mettre notre pied à l'étrier, c'est presque une gratification personnelle qui ne m'apportera pas grand-chose de plus dans la vie, mais juste une satisfaction. Et ça continue de se passer ainsi dans tout notre parcours. Donc, ça fait partie de ces choses où finalement, oser rêver, c'est oser croire aussi en ses capacités à réussir. Et Jérémy ou Vincent, donc mes deux associés, c'est des personnes, quand on a commencé Pitcher, qui avaient une confiance en eux, notamment professionnelle, très faible, qui avaient une faible estime d'eux. Et à travers ce projet, le fait que. Donc je pense que j'ai été, moi, le leader du projet à la base en les tirant par le haut. Et petit à petit, ils y ont cru. Ils ont cru en eux. Ils ont amené des gens avec eux.
Magnifique.
Et ils ont développé une confiance en eux qui est énorme. Et aujourd'hui. Toutes nos amis d'enfance qui recroisent, que ce soit Jérémy ou Vincent, ils ont de l'admiration pour ce qu'ils ont réussi à mener, ce qu'ils arrivent à incarner aujourd'hui. Et je pense que savoir vivre ses rêves, c'est savoir essayer. Et même si on n'a pas confiance en soi, aujourd'hui, il faut le tenter. Et il y aura des gens autour de nous, et il y a des gens autour de nous, qui sont capables aujourd'hui de nous mettre le pied à l'étrier et de faire avancer les choses.
Donc en fait, pour oser ses rêves, il faut faire le premier pas quelque part.
Ouais, déjà, si on ne fait pas le premier pas, on ne peut pas oser ses rêves. Donc, il y a un certain courage à avoir. C'est comme quand on est au collège et qu'on va embrasser sa première copine. À un moment, si on ne l'embrasse jamais, ça va être problématique. Donc, il faut y aller. Il y a le cœur qui bat à 200%. Mais à un moment, il faut se lancer. Et là, je pense que c'est exactement pareil. Parce que se lancer dans la vie professionnelle, comme nous, on l'a fait avec un rêve, c'était prendre un risque de perdre quelque chose. Et Coco l'a très bien dit, notre culture européenne, c'est une culture de la peur de perdre. On a peur de perdre, on a peur de se remettre en question et on a peur de l'avenir. Alors que si on compare les États-Unis, je ne fais pas l'apologie de l'Amérique du tout. Mais par contre, il y a quelque chose que je trouve sublime dans leur culture, c'est qu'ils savent rebondir. Demain peut toujours être meilleur. Et quand Coco dit « on ouvre le champagne », Je passe beaucoup, beaucoup de temps en Amérique pour le travail. Et c'est une des grandes forces aujourd'hui du peuple américain, c'est savoir toujours rebondir, et savoir toujours y croire, et savoir toujours garder le sourire. Et dans l'amorosité d'un échec, aujourd'hui, on ne fait que s'enfoncer. On se rend compte que quand derrière on le prend du bon côté, et ben, on s'attire aussi la sympathie et le soutien des autres. Et la spirale positive, elle continue de s'enrichir par des gens positifs et la spirale négative d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je pense que quand on ose ses rêves, on s'inscrit dans cette spirale positive qui attire plein de bonnes personnes avec des bonnes intentions autour de nous. Et ça contribue à pouvoir les réaliser.
Magnifique.
Oui, merci beaucoup. C'est génial, c'est très inspirant. Merci.
Non, c'est vraiment une. Enfin, moi, je suis content de pouvoir partager ça dans le sens où on a eu peur de le faire et on avait vraiment la trouille. Et quand on s'est lancé, bah, c'était pendant 3 ans, c'est pas payé, il n'y avait pas de salaire, pas, on gagnait pas d'argent. Et on se remet quand même en question à se dire, bah, les parents, enfin, nos parents nous disent, bon, mais à quand tu vas avoir un métier qui gagne des sous et où tu vas pouvoir payer un loyer? Et bah, du coup, on se remet toujours en question à se dire, est-ce que vraiment faut aller jusqu'au bout? Et tous les gens autour de nous étaient tellement motivants et avaient toujours les bons mots pour nous pousser à toujours aller plus loin. Et ils nous disaient, mais c'est pas possible que ça marche pas, ça va marcher, ça va marcher. Donc, nous, il y avait une espèce d'émulation aussi dans l'équipe. Et je parlais du collectif, être trois, ça a été super fort parce qu'on a toujours des coups de mou. Et entreprendre seul, genre, je ne sais pas comment Isabelle le vit et elle enrichira sûrement ce dialogue, mais entreprendre seul et vivre son rêve seul, je trouve que c'est d'autant plus compliqué que dès qu'on va avoir un coup de mou, on va avoir tendance à baisser les bras. Et il va falloir encore plus de motivation, de confiance en soi pour y aller. Et quand on est un groupe, et ben, il y en a toujours un pour tirer l'autre. Et du coup, même un petit coup de mou, ben, il se transforme en quelque chose qui va rebooster le groupe parce que on se sera remotivé ensemble et du coup, on sera encore plus fort ensemble. Et pour moi, personnellement, la force du groupe, ça a été aussi le succès de Picture.
Ok, je te remercie beaucoup. C'est
Magnifique.
vrai qu'il y a des personnes qui pensent que à faire un projet seul, et souvent on est plus fort, enfin la plupart du temps on est plus fort ensemble, que ce soit deux, trois ou plus. Donc oui, c'est intéressant
Mais
comme point de vue.
juste la conclusion du groupe, c'est aussi une amitié d'enfance qui était scellée avec la même vision. On nous a toujours dit, les trios, ça marche pas, ça explose toujours, c'est du 2 contre 1. Et en fait, ce trio, on a confiance les uns en les autres. On a confiance les yeux fermés. Vincent, qui gère toute la stratégie financière de Pitcher, aujourd'hui, je ne connais même pas le nom de notre banquier, le nom de notre banque, je connais rien. Parce que bah, les yeux fermés, aujourd'hui, il gère sa partie du business. Nous, on gère la nôtre. On travaille ensemble, main dans la main, et on mène le projet à bien. Et on ne l'a pas fait pour devenir riche. On l'a fait parce que ce qu'on a écrit à la base du projet, de vouloir inspirer un nouveau mode de consommation et autres, bah, c'est ce qui nous motive au quotidien. Il y a plein d'actions qui sont menées aujourd'hui avec Pitcher qui ne font rien gagner, mais qui pour le coup contribuent à la réussite de cette inspiration. Et c'est ce qui fait qu'avec les trois, enfin, on est toujours motivé. On se respecte, on ne l'a pas fait pour gagner de la thune, on l'a fait parce que ce qu'on a écrit à la base, c'était les fondements réels de ce qu'on voulait. Et donc, du coup, bah, on n'a jamais de chamaillerie ou quoi que ce soit qui pourrait faire éclater le trio.
Oui,
Ça,
parce que
c'est quelque
c'était
chose de
clair.
super important. Ouais,
C'était clair
exactement.
dès le départ, c'était écrit, c'était clair.
Oui, vous avez chacun trouvé d'abord votre place justement dans les finances, dans le marketing et dans
Exactement.
la production, donc vous êtes super
Et puis
complémentaires.
voilà, il y a 12 ans, on était juste trois potes qui pensions qu'à rider et à lier leur passion à leur travail. Aujourd'hui, bon, on a chacun des familles, on a chacun des femmes différentes, on sait à quel point la famille
Ça, c'est
influence
encourageant,
aussi.
ça.
Ouais, mais ça influence vraiment la. Ça influence un petit peu le lifestyle qu'on va avoir chacun de notre côté et du coup l'impact positif ou négatif qu'on peut avoir sur l'entreprise. La famille devient une priorité de vie alors qu'avant c'était que l'entreprise. Et donc du coup il faut savoir combiner aujourd'hui cette priorité du rêve et cette côté de la famille. Et chacun, pour nous, créer notre famille, ça a été aussi vivre un rêve. Parce que on sait, ceux qui ont des enfants, en tout cas, savent à quel point c'est bon, à quel point ça rend heureux et à quel point on est prêt à faire des sacrifices qu'on ferait pour personne d'autre par la famille. Et donc, la famille est aussi un élément super fédérateur dans notre projet. Et le fait de chacun avoir une eau famille et d'avoir des femmes qui respectent notre rêve et ce projet, ça a fait que ce projet peut continuer et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts à un moment. Et je pense que les conjoints ont vachement d'importance aussi dans le succès des projets et des rêves.
C'est clair. En plus, ils sont dans vous, tous vos catalogues avec vous. C'est magnifique, en tout cas, cette famille que vous avez créée là. Merci, hein, c'est génial. On
Juste,
se réjouit beaucoup de voir.
Julien, en fait, je trouve que tu illustres très très bien la citation d'Einstein qui disait: ne cherchez pas à être des hommes qui ont du succès, mais des hommes qui ont de la valeur.
Ah oui.
Bah écoute, merci, c'est un très beau compliment.
Trop beau, trop
Oui,
beau.
magnifique.
Voilà.
Mais on en parlera quand viendra mon tour, on en parlera de. Parce que je crois qu'on se trompe beaucoup de cibles souvent. On cherche à avoir du succès et on se trompe d'objectif.
Écoute, ça tombe bien, c'est ton tour.
Comment?
C'est ton tour. On va dire au
Ça
revoir à
tombe
Julien
bien, c'est
parce
ton
que
tour.
Julien va nous quitter. Il va avoir une belle soirée prévue avec ses amis. Merci beaucoup
Ben
d'avoir
voilà.
été avec nous, Julien.
En tout
On
cas, merci de
se
m'avoir accordé ce temps de parole. Je suis super content et j'espère vous voir tous
retrouve
dans 15 jours à la soirée Seven
le
Star Life.
7. Trop
Ouais,
bien.
ça va être une super soirée. C'est à Lausanne.
Merci,
C'est.
Julien.
Avec plaisir. Au revoir
À
tout le monde.
bientôt. Bye bye. À
Oui.
bientôt. Profitez bien. Voilà,
Ah,
donc trois filles.
moi,
Allez, Isabelle, on t'écoute. Merci.
Alors, merci déjà, vraiment un grand, grand merci à Coco d'investir tellement d'énergie, de ferveur, de foi et de passion, en fait, à vouloir partager ce qui lui tient à cœur. Je trouve qu'effectivement, Seven Sky Lab, c'est un magnifique portail d'informations positives. J'étais quelque part un peu comme journaliste, maintenant ça fait 25-30 ans que je suis journaliste, enfin, peut-être bientôt 30, journaliste pour la presse suisse, radio, télévision, presse écrite. Et il y a à peu près une quinzaine d'années, j'avais créé un portail d'informations positives qui s'appelait Planète Positive, et où j'étais un petit peu la pionnière de l'information positive en Suisse. Et je suis vraiment heureuse de voir qu'aujourd'hui, de plus en plus de plateformes grâce à Internet relaient des informations qui donnent du sens, qui sont porteuses de sens et qui nous montrent une autre actualité. Parce que pour moi, en fait, le rêve, ce n'est pas le rêve que de Joy for the Planet, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est un rêve qui démarre depuis mon enfance, en fait, qui en fait, moi, je rêve de ne plus rêver, en fait. Ah, je m'explique. Je rêve de vivre la vraie vie. C'est-à-dire d'être dans ma vérité. Je ne veux plus être une dormeuse. Et donc, depuis toute petite, on est conditionné, on est avec des parents qui nous éduquent de telle et telle manière, on nous pousse à faire des études, après les parents veulent qu'on fasse ce type de carrière, après on nous dit qu'il faut épouser telle et telle personne, et puis que, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est vraiment formaté et conditionné depuis très petit. Et finalement, on ne se rend pas trop compte, mais on finit par être un bon produit de consommation, un bon petit soldat, et on oublie au fond de vivre qui on est véritablement dans sa nature profonde. On vit plutôt par procuration, on vit pour faire plaisir à la famille, on se marie avec ce qui est bien vu par la société, etc., etc. Donc, pour moi, le rêve, c'est d'arrêter de dormir, d'arrêter d'être des programmes conditionnés et de se trouver vraiment soi dans ses projets de vie, dans ses valeurs et dans ce qui donne du sens à notre vie. Et donc, je suis un peu le mouton noir du milieu d'où je viens, puisque j'ai toujours, en fait, été un peu une rebelle. Et c'est vrai que de se réveiller, de vivre, en fait, la vie qu'on se choisit, ça implique pas mal de discernement, ça implique un certain courage, ça implique d'oser déplaire, d'oser, de prendre le risque de ne pas plaire à tout le monde,
de prendre le risque même de faire de la peine, hein, parce que il y a pour moi une des plus belles citations qui soit, c'est l'art véritable, c'est de rendre heureux. Bon, y a pas, pour moi, il n'y a pas de plus bel engagement, de plus belle mission que de rendre l'autre heureux. Et c'est tout le but de toute ma vie, en fait, à travers mes informations, on va dire, constructives, positives, sur un peu de planète. Mais attention, je ne parle pas de rendre heureux à son détriment, en se reniant, encore une fois, dans ce que l'on veut vraiment faire de sa vie et en se sacrifiant. Pour moi, rendre les autres heureux va... comment dire, ça va de pair avec notre propre bonheur et notre propre équilibre. Si je suis heureuse, du coup, je vais rayonner cette joie autour de moi. Et je vais pouvoir vraiment contribuer à rendre d'autres encore plus heureux. Bref, tout ça pour dire, pour revenir à mes rêves. Donc, moi, mon rêve, c'était d'être une journaliste lucide, on va dire. Au début, j'ai des journalistes pour toute la presse suisse, comme je vous le disais tout à l'heure, et les faits divers, les catastrophes, les meurtres. Je me suis rendu compte, après quelques années, qu'il y avait une espèce de manipulation des consciences dans les médias classiques, on va dire, en omettant de partager ou de relayer la beauté. En oubliant ou en ne mettant pas forcément en avant le meilleur de l'homme. Et on parle que de ce qui est en rupture, en fait, avec le quotidien et une forme de paix sociale. Donc, on ne parle que des catastrophes. Mais le problème, c'est qu'à force de montrer des catastrophes et des faits divers et des informations anxiogènes, eh bien, ça nous plombe et ça nous tire vers le bas. Et puis, on se trouve finalement pas si mal quand on voit tellement de gens un peu médiocres autour de soi, reliés par les médias, hein, les criminels, les terroristes, enfin voilà. Et du coup, on se passe si mal. Donc, du coup, on va pas forcément chercher à se déployer dans tout son potentiel, d'une part. D'autre part, ça nourrit des préjugés et beaucoup d'intolérance entre les peuples, entre les communautés, parce que encore une fois, on ne souligne que l'ombre au lieu de montrer la lumière. Et puis, je me suis dit, c'est plus possible. Et je suis donc, après, j'ai travaillé à la Forum internationale, j'ai quitté les médias, mais j'étais toujours journaliste communicatrice. Et puis, pendant la guerre en Irak, en 2003, je me suis rendu compte qu'au cœur des guerres, au cœur de la violence, j'étais témoin d'actes de solidarité, d'actes d'humanité, de tendresse entre les civils, les blessés, les bénéficiaires, même les forces alliées, des soldats américains qui sauvaient des bébés chats, qui se prostraient, qui serraient des bébés chats ou même des bébés irakiens blessés contre leur cœur. Oh voilà, j'ai vu des choses merveilleuses, enfin merveilleuses, oui, très touchantes, très poignantes. Et quand je rentrais le soir, je voyais dans nos résidences, je voyais à la télévision que de la violence, que des orphelines pillées par les bandits, par les gangs, et je ne me suis pas du tout reconnue. Je n'ai pas retrouvé ce dont moi j'étais témoin. Et donc, c'était une grande prise de conscience. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, non, je quitte vraiment les médias traditionnels pour montrer cette autre réalité du monde. Et voilà, j'ai créé Planète Positive, qui était un petit peu les prémices de Seven Sky Life aujourd'hui, qui est beaucoup, beaucoup plus professionnel, beaucoup plus riche en informations, beaucoup plus diversifié. C'est vraiment, je pense que c'est la plateforme média la plus ouverte, la plus généreuse, la plus pointue, la plus diversifiée en termes d'informations inspirantes et positives. Et voilà. Et donc, pour arriver à Joyful Planet, donc bon, enfin, après, j'ai quitté les médias classiques et j'ai fait mon propre journalisme. Après, après avoir vraiment été dans des situations dramatiques, dans les territoires occupés, à Gaza, au Kosovo, enfin bref. Contribuer à faire en sorte que les humains fraternisent ou en tout cas se perçoivent autrement, dans le respect, dans la réciprocité du potentiel, du don et des qualités de chacun. Il fallait que je me mette en route, en chemin pour montrer la beauté humaine sous toutes ses formes. Alors voilà, maintenant j'ai fait donc pas mal de choses pendant des années que je ne vais pas développer ici pour arriver à Joy for the Planet. Donc en 2017, en fait, je me suis dit, c'était vraiment un de mes rêves, c'était de sauter dans un camping-car pour traverser la planète. J'ai commencé par l'Europe pour. Avec mon micro, ma caméra, mon bloc à dessin, mes crayons de couleur, parce que j'adore dessiner, je fais pas mal de monde dessiner aussi, pour justement aller à la rencontre des gens ordinaires, extraordinaires.
C'est magnifique.
Parce que, je sais pas si tu veux intervenir, Coco, tu me dis, sinon moi je m'arrête pas.
Hein. C'est une machine. Hein. Tu le fais très 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 bien en tout cas.
Donc, parce que après genre 25 ans de reportage à travers la planète, j'ai aussi participé à la première marche mondiale pour la paix et la non-violence en 2010. J'ai traversé 75 pays en 3 mois, 150 000 kilomètres. Enfin, j'étais porte-parole pour les médias, j'ai tenu un blog, publié des centaines de vidéos, d'articles, enfin voilà. Et je me suis rendu compte, en plus, bon, je m'en rends compte depuis toujours, mais à force, après avoir couraté à travers toute la planète, j'ai vu tellement d'humains extraordinaires, vraiment des humains, mais moi je dirais que c'est vraiment la majorité. Hein, la majorité des humains sont habités par une véritable bonté. Maintenant, évidemment, c'est toujours le petit peuple, c'est les gens de la rue, c'est des gens qui se croient impuissants, qui se croient vulnérables. Donc évidemment, ils délèguent, ils confient leur existence à des politiques. Qui malheureusement ne les représente pas forcément dans cette bonté.
Je peux intervenir deux secondes ?
Bien sûr.
Alors, en fait, moi, j'aime bien cette idée de quand on est né, en fait, on reçoit des dons et des talents, tout le monde. Et c'est le plus grand cadeau qu'on peut offrir à l'humanité, en fait. Et quelque part, ils sont dormants jusqu'au moment, en fait, qu'on se permet de les sortir. Et là, à ce moment-là, justement, on rentre dans notre alignement et on ose, en fait, justement, faire le pas parce qu'on sait, mais on a reçu ça. C'est tellement triste si on fait rien avec ça. Et du coup, on sent cette force aussi qu'on a reçu ça. C'est vraiment un cadeau. Ouais. Et je pense, Adore, c'est en chacun de nous, en fait. C'est en chacun de nous. Et c'est à nous d'enlever, en fait, les couches qui font qu'on n'ose pas.
C'est ouais. Ça. À nous de reconnaître, pardon.
Non, juste encore le rêve. Le rêve dans ça, c'est avec le rêve, avoir cette vision-là, parce qu'on attire, hein, ça c'est un peu la loi d'attraction, mais on attire toujours à quoi on pense le plus souvent. Donc si on rêve très haut et on rêve un monde meilleur, etc., donc on arrête en fait de voir toutes ces mauvaises nouvelles dans les journaux, etc., mais qu'on rêve en fait au monde qu'on veut créer, ben en fait on commence à le créer et en fait du coup on va sentir sa force, on va sentir le cadeau qui monte et qui dit waouh, je suis là et je peux faire quelque chose. Et le rêve juste de Seven Sky Life, c'est vraiment que ces gens qui reconnaissent en fait leur force de qui on est, en fait qu'on se met tous ensemble, qu'on reconnaît chacun l'autre. Moi je connais très bien Gwen, je sais, c'est juste exceptionnel comme elle arrive à se connecter avec les gens qu'elle interviewe à chaque fois. C'est un bonheur. Elle devient cette personne, elle comprend tout, elle est incroyable pour apporter les messages. Aussi, je pense, je les connais aussi très bien, je vois tes dons et tes talents. Et en fait, mon rêve aussi, c'est que tout le monde le reconnaît pour soi-même. Chacun sait, en fait, pour soi-même, mais je suis quoi? Je suis l'archétype de quoi? Dernièrement, j'ai reconnu une très, très chère amie en tant qu'archétype de la vérité. Elle est venue, elle voit la vérité, elle voit le mensonge autour d'elle. Et tous les jours, les gens qui jouent des jeux, et puis quelque part, elle se sentait toujours pas à sa place. Mais en voyant que quelque part, elle voit ça depuis tout petit, elle voit ça chez sa maman et chez tous les autres, elle a vu ça aussi chez moi et tout ça, et puis ça me gênait parce qu'elle me regardait tout ça, et puis j'aimais pas parce que ça me stresse quand elle me regarde des fois comme ça, mais en fait, qu'il y a quelque chose qu'elle a chaque fois reconnu. Et en fait, c'est, on a chacun quelque chose comme ça. Moi, je suis une connectrice et puis j'apporte de l'amour, je connecte à l'amour et puis j'apporte ça dans le monde. Mais si on arrive à le dire pour chacun, en fait, on est qui? Tu vois?
Ouais. Ouais. Je veux juste rebondir par rapport à l'amour. Parce que c'est vrai qu'on est tellement de choses sous le chapeau de l'amour. Moi, j'ai vraiment envie de parler d'amour inconditionnel et cohu. Cohu, je dis bien. C'est-à-dire, parce qu'il y a amour et amour. Hein. Parce que moi, j'ai vraiment... on ne peut pas aimer tout le monde naïvement et accepter parfois des comportements abusif, sous prétexte qu'on est en amour pour l'humanité entière et du coup on doit se laisser faire. Pour moi, l'amour, c'est un des outils pour vivre mes rêves, hein, c'est d'avoir le discernement suffisant pour m'entourer des bonnes personnes, prendre mes distances avec des personnes toxiques ou négatives ou qui nous. Oui, qui sont pas forcément le même agenda de bienveillance. Et parfois, être dans l'amour, c'est aussi dire non, de dire stop, de poser ses limites. Typiquement, comment dire, qu'est-ce que je peux vous donner un exemple peut-être personnel? Moi, j'ai épousé un mari égyptien, musulman, il y a longtemps. Et c'était évidemment pas pour faire plaisir à la famille qui était tout à fait contre. Et on m'a, bon, mon père qui est décédé aujourd'hui, mais avait opéré un certain chantage sur moi pour que je divorce, pour que. Et j'aimais mon père, mais par amour pour mon père, je n'allais pas pour autant me renier mon amour pour cet homme, pour mon mari. Non, j'étais jusqu'au bout de ce mariage, jusqu'au bout de ce couple. Et voilà, et ça m'a coûté 4 ans où on ne s'est plus parlé avec mon papa, c'était un peu critique. Après, il est tombé gravement malade. Bon, on a eu le temps de se retrouver puis de se réconcilier avant son décès. Mais tout ça pour dire que, je dirais, quand je parle d'amour, pour moi, parfois, il s'agit aussi d'oser dire non à son boss quand il vous demande de faire quelque chose qui va contre vos convictions. Ah oui,
on est d'accord. L'amour, c'est une vibration. C'est une vibration. Et puis, en fait, qu'est-ce qui va? C'est ce qu'il a expliqué très bien Julien avant. Hein. C'est quand les aimants, ils s'attirent. Ben, en fait, à ce moment-là, c'est juste. Mais c'est une vibration. Et en fait, c'est quand ils ne le sont pas, c'est une autre vibration. Et puis, voilà. Là, il y a Christina von Dreyen qui a sorti son livre, hein, en français maintenant. Elle vient de sortir son livre en français, ouais. Alors, en fait, elle explique toujours cet exemple qu'il y a les parents, quelque part, qui sont au bord du bac à sable. Et puis, en fait, il y a les enfants qui jouent. Et en fait, ils attendent que les enfants sortent à un moment donné. Ils ont arrêté de se jeter du sable dessus. Et puis, voilà, ils viennent vers les parents parce qu'ils en ont marre. Mais la société, c'est un petit peu ça, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de se jeter du sable, mais en tant que parent, tu ne vas pas aller pour autant. En fait, tu les aimes, les enfants, mais tu ne vas pas pour autant aller jouer avec eux et jeter du sable. Tu vois? Mm-hmm. Moi, j'aime bien cet exemple-là aussi.
Bonne illustration, oui, en effet. Isabelle.
Je peux continuer?
Quelque chose, oui.
donc, avec Dieu veut la planète, donc j'avais besoin d'argent, de moyens, parce que là aussi, quand on a des rêves, encore faut-il avoir les moyens de se les offrir. Et là, effectivement, ce que disait Julien tout à l'heure, l'amitié, la solidarité rentrent en jeu. Et grâce à un financement participatif, j'ai pu récolter 18 000 euros avec beaucoup de. Oui, beaucoup d'enthousiasme, notamment grâce aussi à ma partenaire de projet, Sachtine Serro, qui est donc responsable de marketing et communication, qui m'a donné un énorme coup de pouce. Mais c'est vrai que quand on essaie soi-même d'incarner ce rêve ou ce message que l'on souhaite amener autour de soi, ben, les gens vous suivent quelque part. On doit être crédible. Et là, c'est vrai que c'est encore un outil que j'aimerais partager, c'est vraiment la cohérence. Mmh. Être cohérent entre sa parole et ses actes. Je vois trop de formateurs, de même de prédicateurs, de politiciens, vraiment tout ce que vous voulez, qui sortent des belles phrases, qui ont des beaux programmes politiques, des beaux agendas, et au fond, effectivement, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, je pense que c'est vraiment important, peut-être, d'avoir des petits rêves, mais au moins que ces objectifs soient vraiment cohérents entre ce que l'on souhaite, ce que l'on dit et ce que l'on acte dans la réalité. Donc voilà, je pense que on a réussi à avoir les moyens. Moi, j'ai mis, évidemment, je suis partie beaucoup de mes économies personnelles. Je suis partie bénévolement, donc pendant un an, j'ai traversé toute l'Europe, 25 pays, à la rencontre de ce que j'ai appelé les joyeux. Mais les joyeux, c'est pas tralalaoudi, youplaboum, hein, c'est des gens justement qui vivent la vie qu'ils ont choisi de vivre. C'est des gens donc qui sont joyeux parce que ça vient en fait, ça vient de tellement loin cette joie, parce qu'on sent que ils chaussent les chaussures ou la bonne pointure de chaussures qui leur était destinée. Oh. J'avais vu une fois sur le mur du métro à Paris, la confiance est d'aller là où on est déjà. Et les joyeux, c'est des gens qui sont arrivés là où au fond, ils étaient attendus d'être. C'est comme si ils ont eu leur rendez-vous avec leur destin. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, c'est pas forcément devenir célèbre, c'est pas forcément de devenir riche, évidemment. Mais c'est d'être juste la bonne personne à la bonne place sur cette terre. C'est comme dans un orchestre de musique. Une symphonie, elle ne serait pas parfaite si on n'avait pas le petit gars avec son xylophone au coin de l'orchestre, s'il n'y avait pas le trompettiste, s'il n'y avait pas le flûtiste. Chacun, du gros instrument au plus petit, au plus menu instrument de musique, a sa place. Et l'humanité est un immense orchestre dans lequel chacun doit trouver sa tonalité.
Quel sera le monde d'après toi maintenant si tout le monde a trouvé sa tonalité?
Alors moi, je pense que la planète va se scindrer en deux. Je pense que la planète se scindrait en deux. C'est-à-dire que je pense que si l'humanité, ou en tout cas, on va dire, si une partie de l'humanité trouvait sa propre tonalité, je pense que ça ferait descendre vraiment ce qu'on appelle le paradis sur Terre. Mais quand je parle de paradis, c'est nouveau pas des anges aux joufflus, on n'est pas là-dedans avec des Disneyland partout et des Europa Park, on ne parle pas de ça. On parle simplement d'une. Pour moi, le paradis, c'est en fait le fait que chaque être humain puisse vivre son absolu, en fait, son absolu, son divin, son amour total. Voilà, après ça reste des concepts.
Mais ça, c'est un concept ou c'est un rêve pour toi? Toi, tu le visualises vraiment?
Ouais, au paradis, je le vis tous les jours déjà, personnellement. Moi, je n'aspire pas du tout. Enfin, je ne me bats pas pour faire descendre le paradis sur Terre. Je fais de mes journées un petit paradis dans mon quotidien. C'est-à-dire, je construis à chaque seconde ce paradis que je souhaite voir en grand sur la planète. Et je pense que ça, c'est pour ça que les rêves, au fond, partent d'un échantillon, partent de son paillasson. Je fais vraiment de mes journées une prière. Je vais pas à l'église, je vais pas prier, je sais pas où, non. J'essaie de, déjà le matin, quand je me lève, de regarder ce qui me met en joie. Puis quand je dis ce qui me met en joie, c'est pas forcément dire ce qui me fait plaisir, hein. Parce que, c'est encore deux choses, c'est deux choses différentes, le plaisir et la joie. Le plaisir, c'est extérieur. La joie, ça vient vraiment de l'intérieur. Donc, moi, j'essaie vraiment, au niveau de mes petites journées, d'être la plus cohérente et la plus intègre et la plus sincère possible avec moi-même et avec les autres. Et déjà, comme ça, ben, disons, ça me rend heureuse. Parce que du coup, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de fausses attentes, on ne fait pas des promesses en l'air. Enfin, il y a quelque chose qui est juste en permanence. Donc, on est heureux. Et en étant heureux, ben, on construit autour de soi un jardin, un potager qui se développe, qui se déploie, puis avec des beaux fruits. Puis ça se déploie à l'infini comme ça. Et je pense que si chacun se levait le matin en se disant, bon, qu'est-ce qui me mettrait en joie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'au fond j'aimerais vraiment faire? Je pense qu'effectivement, on déploierait chacun son petit potager à la fois personnel et altruiste. Et ben, voilà, on arriverait nous à un paradis sur Terre. Moi, je pense que c'est tout à fait... Moi, j'y crois, ce paradis sur Terre, personnellement. Je le rencontrerai, je vivrai peut-être pas de, je le verrai peut-être pas de mon vivant, mais c'est sans importance. Les résultats ne nous appartiennent pas. Ce qui compte, c'est de semer. Après, qu'on puisse soi-même, après, croquer dans les fruits, c'est sans importance. Coco, tu veux nous dire?
Moi, c'est juste peut-être la gratitude, parce que je sens que la gratitude est la base de la joie.
Oui, absolument, oui. Ouais.
Hein, c'est qu'on en sent cette gratitude. Gwen, tu vois ça comment?
La gratitude et la simplicité. Moi, vraiment, ce qui participe de mon bonheur, c'est la simplicité. Je me suis décompliqué la vie, l'existence. Je me suis décompliqué mon existence. C'est-à-dire, en vivant une année à bord d'un camping-car avec 100 litres d'eau par semaine, avec un minimum d'énergie, avec quelques habits, quelques petites paires de chaussures, avec très peu d'argent. Maintenant, je suis revenue de cette grande aventure.
Et il y a un film qui sort et il y a un livre qui sort.
Il y a un livre qui va sortir en décembre sur Internet et puis après dans les librairies en France et en Suisse en janvier. Le livre, ça s'appelle la route de la joie, une journaliste à la rencontre de gens ordinaires extraordinaires. Et puis un film... Ouais.
Oui. Oh, moi, j'ai la chair de poule quand je pense à des films que tu as faits, mais c'est tellement extraordinaire.
J'essaye vraiment de... Pour moi, mes films, en fait, moi, je suis uniquement le porte-voix de la beauté des autres. C'est vraiment ça. J'essaie vraiment de me mettre en résonance avec le meilleur de l'autre, avec sa beauté, avec ses dons. Et puis, c'est ça que j'essaie de faire transparaître dans mes reportages. Mais pour en revenir à la simplicité, parce que c'est vraiment important, on est beaucoup là-dedans maintenant. Évidemment, Pierre Rabhi parle de la sobriété heureuse. Mais la simplicité d'avoir un espace à la maison avec peu de bibelots, peu de choses. Enfin, se simplifier. Parce que plus on simplifie nos besoins et plus on simplifie nos désirs, ben, moins on reçoit de factures aussi, moins on se met de pression. J'ai simplifié mon existence, je vis simplement et je m'enrichis de la relation à l'autre, je m'enrichis du temps parce que j'ai plus de temps à disposition pour vivre ce que j'ai cœur à vivre. Enfin voilà. Donc
magnifique. Et moi, je suis très curieuse, Gwen, si t'es d'accord, si, parce que moi je suis super curieuse. Toi, tu rencontres tellement d'êtres. Est-ce que tu vois, maintenant, je te pose la question à toi, mais est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce que tu ressens, en fait, par rapport à ces gens qui se sentent bien réalisés dans leur être? Qu'est-ce qui te frappe toujours?
Alors, ce qui me frappe, c'est qu'ils sont dans la joie et, en fait, qu'ils ne font pas passer le bonheur immédiat avant, le plaisir final. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait... Pour illustrer, il y a une personne qui veut, par exemple, maigrir, mais son bonheur immédiat, c'est de manger absolument des gâteaux. Que si elle se prive de gâteaux, on va dire, pendant 3 jours, elle aura peut-être perdu 1 kilo. Et donc là, elle aura son bonheur final où elle sera super heureuse. Et en fait, les entrepreneurs et les gens que je vois qui sont hyper heureux, ils font des petits sacrifices comme ça, mais ils savent qu'à la fin, ils sont heureux et satisfaits. Et donc, pour moi, dans mes buts, hein, je garde que je dois vivre du fun. C'est un truc qui est important pour moi. Et de la satisfaction d'avoir réussi à obtenir ce que j'avais envie d'obtenir. Donc, ça nous fait grandir parce qu'on passe toujours par des barrières. Parce que c'est la vie, c'est un jeu. Et dans un jeu, il y a des barrières. C'est, au foot, il y a des barrières, hein, y a des règles du jeu. Et puis, les gens, les footballeurs, ils doivent passer au travers les autres joueurs. Donc, ce sont des barrières. Et dans la vie, c'est pareil. Donc, quand on passe au-delà des barrières, on grandit et on est satisfait d'avoir réussi à passer au-delà de ça. Et donc, c'est bien d'avoir un but et puis d'aller vers ce but. C'est comme ça qu'on est heureux, en fait. C'est en étant en action.
Ouais,
en étant dans une direction, on est heureux. Et ceux qui n'ont pas de but et qui ne font rien, qui ont envie de réaliser un rêve, mais qui ne font rien, ils sont malheureux ou en dépression parce qu'ils ne font pas d'action.
C'est ça. Je sens aussi l'histoire de l'action. Très, très important. Hein. C'est maintenant le moment d'agir.
Pour moi, le bonheur individuel passe par le bonheur collectif. Je pense que ce qui nous rend heureux, c'est le fait de se dire que pour chaque action, chaque choix que nous allons prendre, non seulement ça fera plaisir à moi, mais ça va faire plaisir au collectif.
Voilà, il y a cette deuxième notion-là qui rentre en jeu. Quand on arrive à bien se réaliser soi, ouais, on va aller aussi sur le couple, on va aller sur les autres, on va aller sur les animaux, on va aller sur la planète. Et donc, petit à petit, on élargit nos réussites. On voit qu'on arrive à se gérer. On va mieux gérer le couple, la famille, les groupes, les animaux. Donc, ça, pour moi, ça va de pair, oui. Et c'est vrai que j'aime bien les étapes, en fait. Et il y en a, ils vont directement aider le groupe. Et c'est très bien aussi. C'est parfait. Ils sont satisfaits à travers ça. Chacun n'a pas les mêmes objectifs. Par exemple, apparemment, toi, tu es vraiment passionné par le bonheur des autres et c'est ce qui va te mettre en joie, toi. Moi, je parlais par personne individuelle pour que chacun puisse s'identifier parce qu'on est différent et on n'est pas tous altruistes. Mais on peut tout être. Hein.
Voilà. C'est intéressant de savoir quand tu es altruiste et en fait quand tu n'as pas encore trouvé l'amour pour toi, quelque part, pour justement pour rayonner et aider les autres. Il y a quand même des choses à voir. Pourquoi tu le fais en fait? Quand toi, tu es en fond de toi, tu n'es pas content. Donc en fait, quelque part, combien tu peux donner si en fond de toi, quand même, il manque encore vraiment quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Peut-être vous pouvez répondre. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qui peut manquer? Des gens, il y en a tellement de gens qui aident beaucoup d'autres, mais peut-être ils n'ont pas trouvé en fait chez eux. Mais tu vois, qu'est-ce qu'il y a à faire à ce moment-là?
Pour être sincère, la finalité, on est heureux quand on aide les autres. C'est ça, en fait, le but de tous, finalement. Sauf qu'il y en a qui ne le savent pas encore. Mm-hmm. On vit du fun quand on voit d'autres gens heureux. C'est comme ça, ça nous remplit de joie. Être heureux tout seul, c'est pas drôle. Si tous les autres autour font la gueule, c'est pas drôle. Hein. On n'est pas heureux. Donc, voilà, c'est une des lois universelles, on va dire. Après, tout le monde n'en est pas là. Donc, il faut que chacun regarde comment il peut être heureux déjà, parce que c'est ça qui fait qu'après, tout l'entourage va être heureux aussi.
Ça veut dire aussi de rendre l'autre heureux. Ça, c'est encore un grand débat. C'est un des chapitres de mon livre, justement, où je fais la différence entre solidaire et être altruiste. Être solidaire, souvent, et pour avoir été dans l'humanitaire pendant 20 ans, je sais de quoi je parle, on veut faire de la charité, ou on veut rendre service, ou on veut se rendre bon, n'est-ce pas, en amenant de l'aide ou une assistance à des bénéficiaires. Mais au fond, on le fait souvent pour donner bonne confiance, et puis bonne conscience. Et on place l'autre dans sa dépendance, beaucoup plus que de le mettre en fait dans une situation où il va pouvoir trouver par lui-même
la responsabilité de soi,
de sa vie. Donc voilà. Alors voilà, quelque part on le rend heureux, on lui amène un sac de riz, on rend service, mais en fait à long terme, on contribue à son malheur au fond puisqu'il dépend de nous. Ouais. Alors, être altruiste, pour moi, c'est encore autre chose. C'est de notre énergie. C'est vraiment construire le bonheur de l'autre, mais en l'aidant à trouver par lui-même les moyens de se déployer son art, dans son talent, dans ses dons, dans son amour et dans la reconnaissance de son amour pour lui-même.
Je peux apporter un petit exemple?
Oui, bien sûr.
Alors, en fait, un grand exemple pour moi, il y a vraiment un être qui est incroyable, c'est Marianne Sébastien avec Voix Libre, oui, qui a déjà aidé 2 700 000 personnes, là, surtout en Bolivie. Et en fait, elle sort les femmes et les enfants des mines et elle les responsabilise tous. Donc, en fait, elle ne rejette jamais personne. Et en fait, elle les aide à rentrer dans leur force, ne pas être victime de ce qui leur est arrivé. Toutes ces femmes, maintenant, en fait, elles bossent, elles enseignent des autres, elles vont dans les prisons, elles vont parler avec des prisons, elles vont chanter. D'ailleurs, elle vient chanter à 19h15. On commence avec elle, avec elle nous met un peu dans le rythme de l'événement. Donc, en fait, elle chante avec eux, ils vont chanter partout. Et en fait, dans le chant et dans la façon, c'est une technique qu'elle a, en fait, les gens sortent des émotions très, très, très profondes en eux. Et en fait, il y a une grande libération qui se fait. Et elle, c'est pour moi, c'est l'exemple d'une association qui rend les gens libres. C'est pour ça qu'elle a pu aider 2 700 000
personnes. Elle les rend libres en étant responsable.
C'est ça. C'est ça.
Voilà. C'est la responsabilité, l'éducation, c'est bien. Hein.
Oui,
c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Hein. C'est pour éduquer les gens, transmettre des connaissances et que chacun puisse être responsable de sa vie pour créer sa vie. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Hein.
C'est ça.
Oui, et puis rendre les autres heureux, c'est pas accepter tous les désirats qu'on attend de nous. Hein. Donc, ça, il y a beaucoup de gens, malheureusement, et ça, c'est le petit côté judéo-chrétien, malheureusement, qu'on porte sur le dos depuis 2000 ans. C'est le fait de se sacrifier, justement, pour faire plaisir aux autres. Mais encore faut-il, il n'est pas question de se sacrifier. On peut, comme tu disais tout à l'heure, Gwen, on peut peut-être renoncer à certaines choses. Hein. On peut renoncer, on peut trouver des variantes, on peut trouver des consensus, on peut trouver des compromis, mais pas se sacrifier. Pour moi, le terme sacrifier, c'est vraiment, c'est pas ce qui nous est demandé.
Là, c'est joli, là, l'intervention qui vient de se passer de Isabelle, elle s'appelait ?
Oui, Isabelle, qui disait pour moi, une des plus belles valeurs, c'est agir sans attendre un retour.
Voilà. Absolument. C'est ça. C'est ça. Et trois drôles de dames.
Et donc, oui, voilà, parce que quand même, il y a une blonde, une brune et une rousse. Hein, c'est quand même pas ordinaire. Donc, elle nous dit, depuis ces dernières années, systématiquement, je stoppe tout début de relation dès que je vois du mensonge, du manque de respect ou des affinités divergentes individuelles.
Bravo. Ça, pour moi, ça, c'est très important ce qu'elle dit ici. C'est tellement important. Pour vivre ses rêves et puis vivre son authenticité, c'est de tout de suite, dès le départ, dans une relation quelle qu'elle soit, mais de tout de suite donner la bonne direction, poser ses limites.
Mettre de la vérité, oui.
Vraiment, être dans sa vérité dès le départ, dire non, stop, ça c'est pas comme ça que je le vois. Parce qu'après, plus on laisse traîner le mensonge ou la manipulation ou les faux compromis dans un couple, dans une relation professionnelle, après, plus c'est dur après de s'en extraire. Donc, c'est vraiment fondamental, effectivement, dès le début, de partir tout de suite avec un très bon départ.
C'est juste, c'est un petit peu un changement de sujet, mais j'ai posté aujourd'hui un article que j'ai tout tapé en allemand parce que je le trouvais tellement génial et je voulais le partager aujourd'hui, en fait. C'est justement sur, quelque part, sur la vérité. Mais en fait, le jeu qu'on joue dans le monde, il est extrêmement lent. Hein. Le français, il n'est encore pas parfait, mais allez le lire si vous avez un moment de
voir. Oui, donc je vous ai mis sous la vidéo, vous avez le lien Seven Sky Live. Donc vous avez compris que c'est un site où vous pouvez lire des personnes inspirantes et avoir des bonnes nouvelles. Et aussi écrire et raconter l'histoire d'un ami ou d'une amie qui vous a inspiré. Donc voilà, il suffit de vous inscrire et puis vous avez accès au site et vous pouvez donc vous pouvez le regarder sans être inscrit, mais pour raconter des histoires, c'est plus pratique. Et puis aussi, vous pouvez venir à l'événement pour ceux qui ont l'occasion de venir en Suisse à Lausanne. C'est le 7 novembre.
Et tu seras là, Gwen.
Mais oui, je serai là.
Trop bien.
Je vais venir vous voir avec plaisir.
Merci.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous donner le mot.
Et après, tu seras aussi à la sagesse de l'arbre.
Exactement, je serai au salon Mieux Vivre parce que je suis là pour interviewer les intervenants au salon. Donc, voilà, ceux qui peuvent viendront me faire un petit coucou.
Moi, je donne aussi une petite conférence à 6h15 sur ou contre la 5G, ouais, avec Frequency.
Ah oui, génial.
Samedi, ouais.
Samedi combien ?
le samedi à 6h15 le soir.
Ça aussi, c'est important, effectivement, d'avoir le discernement, de reprendre le pouvoir sur son existence pour ne pas se laisser imposer des problèmes de santé publique pour lesquels on devrait d'ailleurs tous voter. Et c'est incroyable qu'en Suisse, nous qui votons tous les week-ends, bien le peuple n'ait pas été consulté pour cette irradiation forcée.
Ouais. Et se connecter à nous, rentrer dans notre force. Ouais.
Voilà, donc ça, c'est vraiment un autre sujet. Après, quand il y a toujours du mal, il y a du bien de l'autre côté. Donc, il y a des protections qui sont en train de sortir de partout. Il y a plein de... J'ai fait pas mal d'interviews sur ça, si vous allez sur le site Gwenoline TV ou la chaîne YouTube. Gwenoline TV. D'ailleurs, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube parce que ça me permettra d'être mieux référencée. Absolument. Et de mieux partager ces informations-là qui me semblent importantes. Oui. Donc voilà, il y a des protections qui existent. Et quand il y a du bien, il y a aussi le mal qui arrive. Donc, il y a toujours le bien et le mal.
Il est toujours beaucoup, voilà, le bien, il est toujours plus fort.
Et donc, on peut toujours faire quelque chose. C'est nous qui choisissons. Oui. Même si on croit qu'on ne peut pas choisir, on aime bien nous faire croire qu'on ne peut pas choisir, mais on peut choisir. Après, il faut s'informer. Voilà.
Quelqu'un disait, rien n'est bon ni mauvais en soi, sinon l'idée qu'on s'en fait.
Tout à fait. Ouais. Alors, les filles, on a passé une super soirée avec vous tous, les auditeurs.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était super. Est-ce que je peux vous donner le mot de la fin à l'une ou à l'autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut donner le mot de la fin?
Coco, allez, à toi l'honneur.
Alors moi, j'ai juste envie de dire, rêvez, mettez-vous ensemble avec des personnes qui sont comme vous, dans cette même fréquence, et osons, vraiment.
Moi, je dirais rêver, c'est s'éveiller.
Magnifique.
Oui. Oui, tout à fait. Donc, faites le premier pas pour quelque chose dont vous avez envie ou peut-être quelque chose d'inconnu. Ça va sûrement vous faire kiffer. Le but aussi de la vie, c'est de vibrer.
Et on va se rendre compte qu'on a des ailes. Du moment qu'on se lance, on se rend compte qu'on a des ailes. C'est ça. Autrement, on ne se rend pas compte. Mais on en a, c'est sûr.
Oui, c'est vrai. Les petits oisillons, ils sont obligés de sauter pour se rendre compte qu'ils peuvent voler.
C'est ça.
C'est tout à fait ça. Magnifique. Bon, écoutez, merci, on vous embrasse très fort, les amis.
Merci, Isabelle.
Merci. Merci, Gwen. À bientôt.
On vous fait plein de belles choses.
À bientôt. Bye-bye.
Votre écoute.